maladies bactériologiques. Et mort de la peste. Cela nous ramène en plein Moyen-Âge.
Et qui sont exactement les mêmes que celles dont nous fûmes comblés sans en être accablés depuis le 18 juin.
Un bref communiqué publié à Dublin vient de mettre fin à un chapitre de l'histoire de la République d'Irlande. Il annonce en effet que l'armée secrète républicaine, la fameuse IRA, met bas les armes et renonce à poursuivre sa campagne de violence contre la Royal Ulster Constabulary, la gendarmerie de l'Irlande du Nord.
Le coup d'œil sur l'histoire, le recul vers une période passée, ou, comme aurait dit Racine, vers un pays éloigné, vous donne des perspectives sur votre époque et vous permet d'y penser davantage, de voir davantage. Les problèmes qui sont les mêmes et au contraire les problèmes qui diffèrent ou les solutions.
Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet. Bonjour. Je ne sais pas comment cette pauvre Clio fera pour se tirer de cet imbroglio. Ces deux vers de Victor Hugo dans Les Châtiments, j'y songeais ces derniers temps à propos de la question irlandaise qui se trouve au cœur de la grande affaire du Brexit. J'y songeais avec l'envie de les adapter à la situation inextricable où se trouve la première ministre britannique. Je ne sais pas comment cette pauvre Thérèse fera pour dégager l'impossible synthèse. Mais trêve de légèreté. Vous aurez compris qu'il va s'agir ce matin d'éclairer sous la lumière du long terme l'alternative diabolique devant laquelle le Royaume-Uni se trouve placé par le référendum du 23 juin 2016. Dès lors qu'il quitte l'Union européenne, la question de la situation de l'Irlande du Nord, qui fait partie intégrante de la nation britannique, se pose avec virulence. C'est une affaire de frontières assez simple en somme, puisqu'il faut bien poser celle-ci quelque part, où donc sera-ce? Si on la recrée entre l'Irlande du Nord et la République d'Irlande, on porte un coup de hache à l'intérieur de l'île, qui risque de remettre en question l'heureuse réconciliation entre les deux communautés du territoire qui est demeurée dans le royaume, la protestante et la catholique. Cette réconciliation s'est affirmée depuis 20 ans après des affrontements sanglants et elle est renforcée par un rapprochement toujours plus intime entre Belfast et Dublin. Mais si on songe à installer la coupure dans la mer entre l'île et la Grande-Bretagne, ni les unionistes irlandais ni les anglais ne sont prêts à tolérer cette rupture à l'intérieur de la nation. Pour comprendre comment s'est noué ce dilemme, il faut remonter en arrière, par-delà les aveuglements récents, vers le passé lointain de l'Irlande. Christophe Gillissen va y pourvoir avec moi. Il est professeur d'études irlandaises à l'université de Caen, donc de Reitman. J'ignore comment cela se dit en gaélique. Et pour commencer, nous allons entendre Mary Robinson, présidente de la République d'Irlande, en 1996.
On voyage beaucoup plus maintenant du nord au sud, du sud au nord. On fait des amitiés au dehors de la politique. Et moi, j'encourage beaucoup cette amitié. Et je vais moi-même à Belfast, à Derry, pour rencontrer les gens qui travaillent au niveau de grassroots et qui font un travail énorme pour réconcilier entre les deux communautés. Et je suis optimiste à ce moment parce que j'ai le sens que vraiment pour les gens en Irlande du Nord, on a maintenant eu l'expérience encore de la paix. Et c'est quelque chose de tellement précieux. C'est la vie normale après 25 ans de violence. Alors, on est absolument déterminé de sauvegarder la paix et de travailler et de discuter au niveau politique les difficultés. Le fait que le Royaume-Uni et l'Irlande sont membres de la communauté, ça, déjà, c'est quelque chose de très favorable parce que les ministres se connaissent l'un et l'autre. Et les premiers ministres aussi se rencontrent au niveau européen et en parlant des problèmes en Irlande du Nord. Et l'Union européenne a donné beaucoup d'argent. Ils ont réfléchi comment aider le processus de paix en Irlande du Nord. Alors, on a donné l'argent, les bénéfices directement au groupe de base. Mm-hmm. qui travaillent ensemble. Alors ça nous aide beaucoup.
Christophe Gillissen, bonjour.
Bonjour.
C'était donc Mary Robinson qui a été présidente d'Irlande, de la République d'Irlande entre 1990 et 1997. Là-bas, le président, la présidente est élue au suffrage universel. Et elle était en visite en France, interrogée par François Bedin sur France Culture le 26 mai 1996. Grassroots, ça veut dire à hauteur du terrain.
C'est ça, la base, le terrain, tout à fait.
Et alors cette citation, cette conversation, en français remarquable, cette conversation attire l'attention, c'est un peu amer aujourd'hui, sur le rôle positif de l'Union européenne dans l'installation provisoire de la paix entre l'Ulster d'un côté, l'Irlande du Nord et d'autre part la République d'Irlande. On est là 2 ans avant les accords dits du Vendredi Saint qui vont apporter la paix en Irlande du Nord.
2 ans avant l'accord du Vendredi Saint, 2 ans après le cessez-le-feu de l'IRA et des autres organisations paramilitaires, il y avait donc là une fenêtre de tir, une occasion inespérée, historique, pour mettre un terme à ce conflit. Et la présidente de la République d'Irlande, Mary Robinson, a joué un rôle. Elle a été à plusieurs reprises en Irlande du Nord, rencontrer des représentants de l'IRA, ce qui n'était pas forcément très bien vu. Elle a pris des risques et elle a pesé de tout son poids, malgré ses compétences limitées hein, de présidente. Et là, elle souligne des choses très importantes. On parle assez peu de la contribution européenne à la résolution du conflit. Mais par exemple, aujourd'hui, Michel Barnier, qui négocie le Brexit, à l'époque était commissaire pour la politique régionale et donc a supervisé le versement de sommes tout à fait considérables dans le cadre des programmes Peace, des programmes pour la paix en Irlande. Il a une compétence spécifique, il a une conscience aiguë de l'enjeu qui se joue en ce moment entre Londres et Bruxelles. Il n'est pas sûr que du côté de Londres, il y ait la même conscience. On a parfois l'impression que les ministres britanniques, qui sont en fait des ministres anglais, ne connaissent pas très bien ou ne se soucient pas beaucoup de ce qui se passe en Irlande du Nord. On a vu récemment, lorsque la nouvelle ministre des Affaires nord-irlandaises a été donc nommée à ce poste, elle n'avait aucune connaissance de la réalité du terrain. Et donc, au bout de quelques temps, elle s'est manifestée publiquement à la radio en disant qu'elle avait appris beaucoup de choses intéressantes sur l'Irlande du Nord, comme par exemple le fait qu'il y avait des unionistes et des nationalistes. C'est le béaba pourtant.
Il a fallu évidemment qu'elle l'apprenne. Dès lors, en particulier, qu'après les élections qu'a décidé la première ministre, Theresa May, et qui n'ont pas été un succès pour elle, les élus unionistes de l'Irlande du Nord sont devenus nécessaires à sa majorité, majorité d'ailleurs branlante.
Les conservateurs n'ont pas la majorité, ne se sont maintenus au pouvoir que grâce au soutien des 10 députés unionistes nord-irlandais. C'est un alliage, une alliance un petit peu incertaine parce que les objectifs ne sont pas forcément les mêmes. Pour la première ministre britannique, Theresa May, l'objectif est de trouver un accord qui évite l'éclatement du Parti conservateur, c'est ça son souci premier. Pour les unionistes nord-irlandais, ce qui est impératif, c'est qu'il n'y ait aucune frontière, aucune différenciation entre l'Irlande du Nord et la Grande-Bretagne. Or, ces deux objectifs ne sont pas toujours faciles à concilier.
Rappelez-nous ce qu'est ce fameux backstop, qui est un essai un peu incertain pour proposer une solution, mais en réalité, ne permet pas d'échapper à ce dilemme que je disais, c'est-à-dire la frontière doit être quelque part, alors où ?
Alors, oui, c'était l'une des 3 conditions imposées par l'Europe pour ouvrir des négociations avec Londres. Donc il fallait régler la question de la contribution financière britannique à l'Union européenne, il fallait régler la question des ressortissants européens en Grande-Bretagne et britanniques en Union européenne, et il fallait trouver une solution pour garantir la paix en Irlande du Nord.
C'était le plus difficile.
Le plus difficile et de loin. Et donc ce backstop, à vrai dire, n'est prévu qu'en cas d'échec des négociations ultérieures.
Ça veut dire filet de sécurité.
Tout à fait. C'est la solution de repli s'il n'y a pas d'accord commercial. L'idée, c'est que Aujourd'hui, donc, en Irlande du Nord, comme l'expliquait Mary Robinson, on peut franchir la frontière sans aucune difficulté. On peut aller du nord au sud et du sud au nord. La frontière est invisible.
Parce qu'il y a union douanière et en même temps marché unique.
Exactement. Et donc, c'est très important pour les nationalistes qui ont signé des accords de paix, parce que leur objectif, c'est la réunification de l'Irlande. Ils ne l'ont pas obtenu. C'est-à-dire que d'un point de vue constitutionnel, l'Irlande du Nord fait toujours partie du Royaume-Uni. Mais ils peuvent se dire, c'est ce qui a justifié la signature des accords de paix, que dans la pratique, l'Irlande a été réunifiée, puisqu'il n'y a plus de frontières visibles. Et donc l'objectif du backstop, c'est de maintenir, dans la mesure du possible, une frontière invisible.
Alors qu'est-ce que c'est concrètement le backstop ?
Les deux parties, Londres et Bruxelles, se sont engagées à ce qu'il n'y ait aucun... un écart entre la réglementation européenne appliquée en République d'Irlande et en Irlande du Nord. Ça permet de maintenir les échanges. Il y a beaucoup de commerce, par exemple, l'industrie agroalimentaire est très présente dans cette région, entre le Nord et le Sud. Il y a beaucoup d'animaux, de produits agroalimentaires qui transitent tous les jours, et donc il y a une réglementation phytosanitaire très contraignante. Et donc l'idée, c'est que en Irlande du Nord, cette réglementation européenne continuera à être appliquée quoi qu'il arrive.
Alors, il faut poser le problème des relations entre l'île Irlande et l'autre île, la Grande-Bretagne.
Et oui, c'est une possibilité, mais là, les unionistes ne sont pas d'accord du tout, parce que ce serait le début de la fin de l'union entre l'Irlande du Nord et la Grande-Bretagne. Donc le plus simple serait que le Royaume-Uni tout entier reste dans le marché unique, applique ses réglementations européennes. Mais ça, à Londres, chez les partisans conservateurs du Brexit, cela passe mal.
Et puis c'est contradictoire avec le fond de l'idée même du Brexit.
Pour beaucoup de partisans du Brexit, effectivement, l'idée, c'est que le Royaume-Uni peut renouer avec une grandeur passée en s'ouvrant vers l'extérieur, sur les anciennes colonies, sur les États-Unis, sur le grand large, finalement. C'est ce que disait Churchill pendant la Seconde Guerre mondiale. Il avait dit, si l'Angleterre devait choisir entre le grand large et le continent, elle choisirait toujours le grand large.
On dit qu'il l'a dit à De Gaulle.
Paraît-il. Et je crois que ce qu'on observe aujourd'hui, c'est une sorte d'atavisme de ce genre, ce passé impérial qui ressurgit chez les partisans du Brexit.
Sauf que tout a changé. Le monde d'aujourd'hui n'est plus du tout celui du temps de Churchill, celui de l'Empire.
Tout a changé, mais les partisans du Brexit n'en ont peut-être pas suffisamment conscience.
Alors il faut que nous regardions... C'est la finalité de cette conversation ce matin, Christophe Gillissen, que nous regardions comment, sur le très long terme, on est arrivé à cette division de l'Irlande en deux. Ce n'était pas inscrit dans les astres. Et d'ailleurs, jusque dans les années 20, on avait espéré, chez beaucoup, qu'on puisse faire l'unité. Vous l'évoquez aussi pour une période plus récente. Revenons loin en arrière. Il faut remonter pratiquement d'un millénaire.
Au XIe siècle, pour être précis, lorsque des seigneurs anglais débarquent en Irlande, c'est le début de la présence anglaise en Irlande. Et pour les nationalistes les plus radicaux, c'est le début de 800 ou 900 ans de conflit. Tout à fait.
Il faut bien prendre la mesure de ce qu'a été l'affrontement entre les Anglais d'un côté et les Irlandais de l'autre. Et comment... avec une durée plus longue que dans le cas de l'Europe, les guerres de religion se sont trouvées en somme perpétuées.
Effectivement, la présence anglaise au départ est assez normale. C'est-à-dire qu'il y a une conquête qui se fait selon les usages de l'époque. Là où la situation va devenir beaucoup plus conflictuelle, beaucoup plus tendue, c'est au XVIe siècle, avec la réforme en Angleterre. Parce que le roi, Henri VIII, tout d'abord, cherche à consolider son pouvoir en Irlande, mais les Irlandais restent très attachés au catholicisme, et donc au conflit politique va s'ajouter un conflit d'ordre religieux. Et à partir du XVIe siècle, et surtout au début du XVIIe, la couronne d'Angleterre va essayer de mieux contrôler l'Irlande en la colonisant. C'est-à-dire que la couronne d'Angleterre comprend qu'elle ne peut pas se fier aux Irlandais. ils sont désobéissants, ils ne sont pas loyaux. Donc, appliquant un précepte de Machiavel dans Le Prince, elle va implanter une population loyale qui servira de relais au pouvoir anglais. Et cette population sera anglaise, écossaise aussi.
Anglicane, protestante, forcément.
Tout à fait. Et elle sera très présente dans le nord de l'île, pour des raisons historiques liées au départ des comtes de l'Ulster. Ils sont nombreux à partir en France à cette époque. Et donc, il y a un vide politique. La couronne d'Angleterre s'en empare et colonise cette région. Quelques 100 000 colons anglais et écossais vont s'installer. Et comment est-ce qu'on les attire? Comment est-ce qu'on les incite à s'installer en Irlande? On leur donne des terres qui sont confisquées aux catholiques. Et les relations sont assez exécrables, il faut le comprendre. Les meilleures terres se trouvent au fond des vallées. Donc on les prend aux catholiques, on le donne à ces colons qui viennent d'arriver. Et les catholiques se retrouvent sur les hauteurs des collines où la terre est moins facile à exploiter. Et ils voient en bas leurs anciennes terres exploitées par des nouveaux arrivants.
C'est exactement ce qu'on appelle une colonie de peuplement. Nous avons connu cela, par exemple, en Algérie.
Tout à fait. Et donc les relations au départ sont tendues et ça se passe dans un contexte de guerre de religion. Il faut comprendre que pour ce qui est des colons écossais, qui sont majoritairement presbytériens, à cette époque, de leur point de vue, l'église de Rome, c'est un peu l'incarnation du mal. C'est Babylone, la bête rouge dans l'Apocalypse, etc.
Kick the Pope, on voyait ça encore dans Belfast au moment des affrontements entre protestants et catholiques du côté des quartiers protestants, de donner un coup de pied au pape.
Oui, ça c'est la version la plus présentable. Il y a des termes plus vulgaires que l'on retrouve également.
Nous choisissons ici d'ordinaire les versions les plus présentables.
mais il y a donc un antagonisme religieux d'une intensité qu'il ne faut pas sous-estimer. Et la suite des événements va accroître les tensions. En 1641, ces catholiques d'Ulster vont se révolter, vont essayer de reprendre leurs terres. C'est le soulèvement d'Ulster 1641. Il y aura plusieurs milliers de victimes chez les protestants. Donc pour les protestants, il y a cette perception du monde selon laquelle ils constituent une sorte d'avant-garde. Ils sont cernés par des indigènes un peu barbares, menaçants, et ils doivent donc résister. Une mentalité de siège va se développer très rapidement. Et cette mentalité de siège va se concrétiser avec le siège de la deuxième ville d'Irlande du Nord, Derry ou Londonderry.
On appelle ça Londonderry du côté des protestants et plus volontiers Derry du côté des catholiques.
Exactement. Même le nom des localités pose problème. Et donc cette ville est assiégée par les troupes catholiques du roi Jacques II, le Stuart. Elle est à l'intérieur de la ville, de la forteresse, les protestants résistent. Ils vont mourir de faim. Certains n'auront d'autre choix pour survivre que de se nourrir des cadavres. Mais au bout du compte, ils s'imposeront, ils remporteront, ils gagneront cette bataille. Et je crois que c'est un épisode historique important pour comprendre les mentalités unionistes. Et d'ailleurs, ce genre d'événement est encore commémoré aujourd'hui en Irlande du Nord, chaque année.
La date importante pour la période quasi contemporaine, c'est 1800.
Oui. La frontière, avant 1800, existe entre l'Irlande et la Grande-Bretagne. Mais la Grande-Bretagne a besoin d'assurer sa sécurité, notamment vis-à-vis de la France. Il y a deux tentatives d'invasion française, 1796-1798. Et donc le gouvernement britannique décide d'annexer l'Irlande. Et donc il n'y aura plus de frontière et les Britanniques pourront contrôler l'ensemble des îles britanniques pour se défendre.
Là est l'origine du refus de la frontière aujourd'hui entre les deux îles, entre l'Irlande et la Grande-Bretagne.
C'est la question qui est récurrente, où placer cette frontière? Les Irlandais veulent, les nationalistes en tout cas, veulent une Irlande indépendante. Les Britanniques estiment qu'il leur est nécessaire, pour des raisons stratégiques, de contrôler ce territoire. Mais l'Union ne sera pas une réussite. C'est-à-dire que au départ, il y a de fortes réticences chez les Irlandais. Le Parlement irlandais, au début, refuse de ratifier cette loi. Il y a une campagne britannique qui est en fait une campagne de corruption à grande échelle. C'est dans les mœurs de l'époque, mais ça choque malgré tout. Et la loi est finalement adoptée par le Parlement irlandais parce que le Premier ministre britannique, William Pitt, promet que les catholiques pourront siéger au Parlement du Royaume-Uni.
On est en 1800.
En 1800. C'est une promesse solennelle parce que le Premier ministre, Pitt, comprend que c'est indispensable pour garantir la réussite de l'Union. Mais le roi, George III, estime que ce n'est pas possible. Lors du sacre, il a juré de défendre la religion protestante et donc il maintient l'interdiction faite aux catholiques qui ne peuvent pas siéger au Parlement. Donc les catholiques, dès le départ, vont se sentir lésés.
Il y a un Parlement irlandais. Hein.
Jusqu'en 1800, en 1800, avec l'Union, il est fusionné avec le Parlement britannique à Londres. Mais donc, au départ, il n'y a pas de députés irlandais dans ce Parlement, hormis des députés protestants. Or, la majorité de la population, 80%, est catholique et n'est pas représentée directement au Parlement.
Voilà les aspects institutionnels, très importants. Il y a tous les aspects économiques qui comptent lourd, qui pèsent lourd dans ce 19e siècle. Tocqueville va rendre visite à l'Irlande. Il en rapporte un tableau impressionnant, sinistre à vrai dire, de la pauvreté de ce pays. Et puis il y a les grandes famines, il faut en dire un mot. Aujourd'hui encore, l'écho en est extrêmement puissant.
Oui, c'est une catastrophe humanitaire majeure, avec assez peu d'équivalent dans l'histoire. Mais c'est également un événement qui va façonner les mentalités en Irlande de manière très durable.
Pour donner une idée de ce que cela a signifié, je vous propose la lecture d'un extrait d'un roman célèbre en Irlande qui s'appelle « Famine » de l'écrivain irlandais Liam O'Flaherty, qui était publié en 1937 et qui décrit la famine de 1845. C'est un extrait de l'émission « Une vie, une œuvre » de Claude Métra sur France Culture le 7 novembre 1985.
Il commença à pleuvoir cette nuit-là. Et la pluie tomba pendant 7 jours avec une telle violence que les gens de la Vallée Noire ne purent sortir leurs pommes de terre des silos comme ils avaient l'habitude de le faire après la foire. Ce retard rendait le vieux Kilmartin absolument fou. Le 7e jour, vers midi, lorsque la pluie cessa, il poussa des cris de joie, comme un petit garçon dont on vient de lever la punition. Il avait déjà été chercher sa bêche dans la grange et gagné le bord de la rivière en courant à travers champs. Le sol était tellement détrempé que l'eau jaillissait autour de lui à chaque pas. Le vieillard commença aussitôt à bêcher et mit la couverture de fougère à nu. Il l'enleva rapidement à la main. Puis il se releva lentement et se dressa de toute sa hauteur, quelques fougères pourries entre les doigts. Il regardait fixement, sans dire un mot, le tas de pourriture que formait sa récolte de pommes de terre. Puis il recula d'un pas, et le visage plissé par une grimace de dément, il leva la tête vers le ciel, comme pour demander à Dieu l'explication de cet affreux malheur. « La malédiction pèse sur le pays », marmonna le vieillard, en se remettant en route vers la maison.
Une malédiction qui pèse sur ce pays, Christophe Gillissen. Cela a compté beaucoup. Il y a eu 1 million de morts ou davantage, et 1 million d'émigrés.
Au moins 1 million de morts et un peu plus 1 million d'émigrés. En effet, le pays a été saigné du point de vue démographique. Donc ça a été un cataclysme épouvantable. Et ce qui a beaucoup frappé les Irlandais, c'est que le gouvernement britannique n'a certainement pas pris suffisamment de mesures pour aider la population. Et c'est encore un enjeu assez important aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en 1995, par exemple, au moment du 150e anniversaire du début de la famine, on a vu dans les quartiers catholiques de Belfast des fresques murales représentant la famine, mais ils n'évoquaient pas la famine, ils évoquaient un génocide. Bon, c'est une interprétation sans doute excessive, mais Tony Blair, lorsqu'il est devenu Premier ministre britannique en 1997, s'est senti obligé, pour faciliter le processus de paix, de présenter les excuses officielles du gouvernement britannique pour ce que Londres n'avait pas fait pendant la famine, n'avait pas apporté suffisamment d'aide aux Irlandais.
Repentance.
Tout à fait.
Londres n'avait donné que 7 millions de livres pour aider les Irlandais, tout en permettant d'ailleurs que le blé et les autres nourritures puissent sortir du pays. Alors qu'au même moment, ou à peu près, Londres avait concédé 20 millions de livres, je vois, aux propriétaires des esclaves des Antilles, et avait consacré 70 millions, 10 fois plus, d'argent à la guerre de Crimée entre 1854 et 1856. Ces chiffres sont impressionnants.
Ils révèlent les priorités du gouvernement britannique de l'époque. Et de fait, l'Irlande, dans le cadre de l'union avec la Grande-Bretagne, était devenue une sorte d'annexe agricole, le grenier à blé. Il s'agissait d'alimenter la Grande-Bretagne qui n'était plus autosuffisante avec l'industrialisation. Et donc, pendant la famine, les navires continuaient à exporter le bétail, le blé, pendant que les paysans irlandais mouraient de faim.
Cela, on ne l'a pas oublié.
En Irlande, non. Les mémoires sont très longues en Irlande.
Cette émigration dans les sensibilités irlandaises, aujourd'hui encore, est fondamentale. Beaucoup de ces émigrés partent pour les États-Unis. La plus célèbre famille, ce sont les Kennedy, mais il y en a beaucoup d'autres. On les voit dans le film de Scorsese, La guerre des gangs, et d'autres en Australie. Et c'est cette émigration en Australie qu'évoque cette chanson que je vais vous faire entendre, Back Home in Derry, retournée à Derry, à Londonderry, par Christy Moore. Une chanson de 1984, et les paroles, c'est notable, sont de Bobby Sands, le fameux prisonnier mort à la suite d'une grève de la faim dont nous parlerons tout à l'heure.
France Culture, Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet.
In 1803, we sailed out to sea, out from the sweet town of Derry. For Australia bound, if we didn't all drown, the marks of our fetters we carried. In the rusty iron chains, we cried for our wains, our good women we left in sorrow. As the mainsails unfurled, our curses we hurled on the English and thoughts of tomorrow. At the mouth of the foil, bid farewell to the soil, as down below decks we were lying. O'Doherty screamed, woken out of a dream, by a vision of bold Robert dying. The sun burned cruel as we dished out the gruel.
Christophe Gélissien, vous avez la bonté de nous donner une idée de ce qui s'était dit pour les très rares auditeurs et auditrices qui n'ont pas compris.
Oui, c'est une histoire qui relate le soulèvement de 1803. Déjà, des nationalistes s'opposaient à l'union avec la Grande-Bretagne, voulaient se battre pour l'indépendance. L'insurrection a été un échec et donc les meneurs ont été emprisonnés et envoyés en Australie. À l'époque, l'Australie est une colonie britannique, mais c'est surtout une colonie pénale, une prison à ciel ouvert. Et donc ces prisonniers sont envoyés. Le voyage est long, plusieurs semaines, les conditions sanitaires sont déplorables.
Beaucoup meurent.
Ils meurent, absolument. Et ceux qui arrivent en Australie pensent à leur famille, pensent à leur ville natale, à leur terre natale et souhaitent revenir à Derry. Le narrateur, lorsqu'il a purgé sa peine à la fin de la chanson, rappelle qu'il est arrivé un rebelle et qu'il est toujours un rebelle. Donc le nationaliste reste nationaliste jusqu'au bout. C'est écrit par un prisonnier, un membre de l'IRA emprisonné, Bobby Sands, et ça reflète l'état d'esprit des républicains irlandais.
À la fin du XXe siècle.
À la fin du XXe siècle, ils s'identifient avec les émigrants. Les émigrants irlandais, au XIXe siècle, ne partent pas spontanément au départ. Ils ont l'impression d'être contraints de partir par les Britanniques, soit parce qu'ils sont emprisonnés et déportés, soit parce que les conditions économiques, la famine, les contraint de partir.
Il faut maintenant que nous en venions à la genèse de l'indépendance de la République d'Irlande et de cette partition de l'île en deux, qui n'était pas, encore une fois, inévitable. Il ne faut pas faire de la téléologie, comprendre comment ça s'est passé. Il y a eu l'épisode de 1886, la Home Rule, avec les débats entre protestants et libéraux, et puis surtout, il y a eu les effets de la Première Guerre mondiale, moment paroxystique.
Oui, à la fin du 19e siècle, à partir de 1886, effectivement, le mouvement nationaliste irlandais cherche à obtenir l'autonomie, le Home Rule, un peu comme le Parlement écossais aujourd'hui, toujours au sein du Royaume-Uni. En face, les descendants des colons écossais et anglais y sont hostiles. Et donc, on s'achemine vers la solution d'un... d'un territoire avec une différenciation. Le nord-est de l'île aurait une certaine autonomie par rapport au reste de l'île d'Irlande. Il y aurait une structure confédérale qui permettrait de satisfaire et les nationalistes majoritaires au sud et les unionistes majoritaires au nord.
Le nord, c'est l'Ulster, à peu près,
à peu près.
Quelques comtés près.
Et donc ce projet est en bonne voie. Et puis arrive la Première Guerre mondiale. Et donc, le Parlement britannique va voter la loi sur le Home Rule en 1914. Mais la loi est suspendue immédiatement. Et il est décidé qu'elle entrera en application à la fin de la guerre.
Les protestants sont très mécontents. Ils parlent de Rome Rule, la règle de Rome, et non plus Home Rule.
Pour ces protestants, être une minorité sous le pouvoir d'une majorité catholique, c'est quelque chose qui est impensable. Juste pour donner un exemple plus récent, l'ancien chef du DUP, Ian Paisley, décédé depuis.
DUP, c'est le parti des unionistes de l'Irlande du Nord.
Exactement. Donc, était député européen. Et lorsque le Parlement européen a invité le pape, Jean-Paul II à l'époque, à venir parler au Parlement, Ian Paisley a manifesté contre cette visite avec une grande affiche où il s'opposait à la visite de l'Antéchrist. C'est comme ça qu'il percevait le pape et le Vatican.
Il faut que nous en venions à la Grande Guerre, au premier conflit mondial, parce qu'au cœur de cette réflexion sur le poids de l'histoire dans le problème irlandais au moment du Brexit, c'est un moment paroxystique.
C'est un moment décisif, c'est-à-dire que les unionistes, pendant la Première Guerre mondiale, vont s'illustrer, notamment pendant la bataille de la Somme. On les envoie en première ligne, c'est un véritable massacre, mais ils payent l'impôt du sang. Et donc désormais, pour le gouvernement britannique, il n'est plus envisageable de ne pas les maintenir en tant que citoyens de première classe au sein du Royaume-Uni. L'union avec l'Irlande du Nord, avec l'Ulster, est sauvée par ce sacrifice, d'une certaine manière. À l'inverse, pendant la guerre, en 1916, la même année que la bataille de la Somme, les républicains, une minorité, décident d'organiser un soulèvement. Ils se disent que la guerre crée une occasion inespérée. L'attention du gouvernement britannique est tournée ailleurs, sur les champs de bataille du continent, et donc organise un soulèvement avec l'appui de l'Allemagne.
Ils vont jusqu'à aller demander l'appui en effet de Berlin.
Oui.
Ce qui apparaît comme une trahison fondamentale et qui constitue une de ces blessures qui peuvent suppurer encore dans la mémoire collective.
C'est une décision lourde de conséquences, mais c'est une longue tradition en Irlande. On forme des alliances avec les ennemis de la Grande-Bretagne. L'Espagne au XVIe siècle, la France au XVIIIe.
L'Espagne au moment de la Grande Armada.
Exactement, en 1588, la Grande Armada espagnole visait à se réunir avec les Irlandais contre les Anglais.
Écho avec 1914, 1915, 1916 et révolte fondamentale à Dublin contre les Anglais, révolte tragique.
Elle se finira mal sur le plan militaire, puisque c'est un échec. Au bout d'une semaine, les insurgés doivent se rendre. Mais ce sera une victoire à plus long terme, parce que cette insurrection va finalement retourner l'opinion publique irlandaise, qui va adhérer au projet de ces républicains. Et là aussi, on retrouve cette notion de sacrifice, puisque certains des dirigeants du soulèvement avaient conscience que l'échec était inévitable, mais ils estimaient qu'en versant leur sang, ils garantiraient la résurrection de l'Irlande indépendante. C'est pour ça qu'ils ont choisi le jour de Pâques pour ce soulèvement.
Pâques 1916. Ce sont dans les immeubles de la poste que se concentre la révolte. Et la plupart des acteurs sont pris et fusillés, sauf l'un d'entre eux parce qu'il avait une nationalité américaine, et Amon de Valera, qui va jouer un rôle important. Écoutez en tout cas cet entretien avec Joseph Kessel. Il s'entretient avec Paul Guimard. Il avait été envoyé en 1920 en Irlande pour le journal des débats d'Étienne de Nalèche. Et il décrit un personnage qui s'appelait Desmond Fitzgerald, qui était, entre guillemets, ministre de la propagande du Sinn Féin, l'organisation indépendantiste. C'est un entretien qui remonte au 16 mars 1956.
J'ai vu entrer dans ma chambre un merveilleux jeune homme, un garçon de 25 ou 26 ans, d'une beauté étonnante, avec de grands cheveux blonds, des yeux bleus inspirés, et qui m'a dit, voilà, je me présente à vous, je suis Desmond Fitzgerald, et je suis le ministre de la propagande du Sinn Féin. Pour le caractériser, je ne citerai que un épisode de son existence. En 1916, quand a eu lieu la grande révolte de Dublin, le dernier réduit, la citadelle, si l'on veut, et le cœur de la rébellion, était l'hôtel des postes, qui avait été saisi par les insurgés, où ils s'étaient barricadés et qu'ils avaient fortifié. L'hôtel des postes a dû être pris d'assaut par les troupes anglaises et au canon. Tous ceux qui ont été pris là ont été fusillés ou pendus. Et même ceux qui ont pu s'échapper et qu'on reconnaissait par la suite, pour avoir été de ce dernier carré, leur sort était le même. Or, un jour où se tenait une cour martiale, on a amené un homme que des policiers ou des soldats avaient reconnu pour être dans l'hôtel des postes. Lui jurait qu'il n'y avait pas été, mais les soldats témoignaient qu'il y avait été, et cela suffisait pour qu'il fût condamné à mort. Et la sentence allait être prononcée lorsque, dans le public, un jeune homme s'est levé et a dit « Je demande la parole ». On lui a donné, il a dit « Je jure sur le Christ ». Or, pour les Irlandais qui sont fervents catholiques, c'est vraiment le serment. Enfin,
qu'on ne peut pas transgresser.
Il a dit « Je jure sur le Christ que cet homme n'était pas à l'hôtel des postes ». Alors, le président du tribunal militaire lui a demandé « Mais comment le savez-vous ? » Et ce jeune homme a répondu « Parce que moi, j'y étais ». C'est-à-dire qu'il se condamnait à mort. C'était vraiment des gens désinspirés, des révoltés comme on l'était il y a 100 ans, enfin des romantiques. Et lui-même était un poète de haute qualité, et il faut dire qu'il me parlait beaucoup plus de littérature que des dangers qu'il avait courus, qu'il continuait de courir. Parce qu'après avoir été condamné à mort, il avait réussi à s'évader, il y avait une forte somme mise sur sa tête, et continuait malgré cela à se promener dans les rues de Dublin et à faire son métier de ministre de la propagande, c'est-à-dire de s'occuper des journalistes étrangers et de les conduire à tous les gens qui en valaient la peine.
Cette coloration romantique, vous la sentez aussi, Christophe Gillissen, vous qui connaissez si bien cette période et l'Irlande en général ?
C'est une composante majeure du mouvement nationaliste irlandais. Cet attachement à une certaine idée de l'histoire de l'Irlande, la volonté parfois sacrificielle de donner sa vie. Oui, tout à fait.
Le moment qui suit la guerre de 14-18, c'est celui où se définit de façon durable jusqu'à aujourd'hui, d'où les problèmes contemporains, se définit la partition, les deux Irlandes. Dans quelles conditions ?
Le gouvernement britannique se retrouve pris en tenaille, c'est-à-dire qu'il y a cette revendication d'indépendance d'une part chez les nationalistes et puis cette revendication des unionistes qui veulent rester au sein du Royaume-Uni. Donc la partition est une solution. Mais la difficulté, c'est que le tracé de la frontière qui est retenu en 1920 ne permet pas de séparer les deux populations. Au sud, certes, on a une majorité assez large de nationalistes. Il y a moins de 10% de protestants dans ce nouveau territoire du sud. En revanche, en Irlande du Nord, en 1920, il y a environ 2/3 de protestants et 1/3 de catholiques. Donc, le problème est résolu en 1920, mais de manière temporaire. Parce que plus tard, cette minorité qui s'estime lésée va formuler des revendications qui aboutiront à un autre conflit à partir de la fin des années 60.
Et dès avant cela, le conflit intérieur à l'Irlande, puisque certains acceptent cet accord et d'autres le refusent. On pense à cette plaisanterie qu'aime bien citer John Horn, cet excellent historien à la guerre de 14, professeur à Trinity College à Dublin. Chaque fois que les Britanniques trouvent une réponse, les Irlandais changent la question.
Les Britanniques ont effectivement démontré une certaine incapacité à comprendre les mentalités irlandaises au fil du temps. Mais la frontière, la partition de l'Irlande va structurer le système politique en Irlande, en République d'Irlande. C'est-à-dire que deux formations émergent de la guerre d'indépendance. Elles vont se battre, c'est la guerre civile. D'une part, les partisans du traité de paix acceptent la partition. c'est le Fine Gael, l'une des deux grandes formations. Le Premier ministre actuel, Leo Varadkar, est issu de cette formation. Et en face, les adversaires du traité, avec Eamon de Valera, par exemple, qui vont tout faire pour réunifier l'Irlande. Donc cette frontière va structurer le système politique irlandais jusqu'à aujourd'hui.
La République d'Irlande naît dans les années 30 en tant que telle.
Oui, jusqu'en 1937, l'Irlande, l'État du Sud, s'appelle l'État libre d'Irlande, donc fait partie du Commonwealth ou de l'Empire. En 1937, grâce à une nouvelle constitution, cet État va devenir une république avec un président élu et une constitution qui revendique le Nord comme faisant partie du territoire national. Donc là aussi, cette partition n'est toujours pas acceptée. Et jusqu'en 1998, jusqu'aux accords de paix, la République d'Irlande continuera à réclamer le Nord comme faisant partie de son territoire national.
On peut rappeler quelle est la superficie de l'île de l'Irlande dans son ensemble. 13 000 au nord, les comtés de l'Ulster, de l'Irlande du Nord, et à peu près 70 000 dans la République d'Irlande actuelle. Est-ce que c'est cela ?
Pour l'ensemble de l'île, c'est ça. C'est donc une petite île en termes de territoire et en termes de population. Aujourd'hui, on parle d'environ 6,5 millions d'habitants au sud et 1,8 million au nord. Et alors, les protestants en République d'Irlande sont peu nombreux. On parle de 2-3% de la population. En Irlande du Nord, le recensement de 2011 indique que les protestants représentent 48% de la population, et les catholiques 45%. Donc ils sont presque arrivés à parité.
Après la Grande Guerre, va très vite s'installer ce climat d'hostilité accrue entre protestants et catholiques. Encore une fois, l'effet d'une très longue histoire. Et cela explique pourquoi on vit dans une situation de quasi-guerre civile, notamment en Irlande du Nord.
Oui, en Irlande du Nord, la frontière a été conçue de telle manière à garantir aux protestants la majorité au Parlement. Donc ils utilisent ce pouvoir, ils restent au pouvoir sans interruption pendant 50 ans. Et dans leur esprit, la priorité, c'est de se défendre contre une menace nationaliste. Donc des politiques discriminatoires vont être mises en œuvre. Les catholiques souffrent du chômage, ont du mal à trouver des logements. Nombre d'entre eux n'ont pas le droit de voter aux élections locales. Tout cela fait partie d'une stratégie qui vise à consolider la mainmise protestante sur l'Irlande du Nord. Mais forcément, cette situation n'est pas tenable. Et à partir des années 60, la minorité catholique, mais un certain nombre de protestants adhèrent à ces revendications, vont demander une modernisation de l'Irlande du Nord, une démocratisation de ce territoire, avec en particulier la question des droits civiques.
Et c'est là qu'on en arrive à l'affrontement sanglant, le dimanche sanglant, Bloody Sunday, du 30 janvier 1972, étant à cet égard une date essentielle.
C'est le tournant, parce que les premières émeutes à la fin des années 60 n'étaient que des émeutes finalement, assez graves certes. L'armée britannique est envoyée sur place pour séparer les belligérants, et au départ les catholiques sont heureux, ils se sentent protégés par l'armée britannique. Ça laisse songeur quand on voit la situation qui s'en est suivie. Mais en 1972... il y a une manifestation pacifique, essentiellement des catholiques, qui protestent contre certaines mesures, comme l'internement ou la détention administrative. Et un régiment de parachutistes britanniques ouvre le feu, tue 13 personnes, une 14e décédera par la suite. Et là, il y a une rupture totale entre la minorité catholique et l'État britannique. L'État britannique n'est plus perçu comme impartial, n'est plus perçu comme le garant de leurs droits. Et cela va faciliter, pour ainsi dire, la tâche de l'IRA, qui présente les Britanniques comme une puissance coloniale. Et avec le Dimanche sanglant, ce discours devient tout à fait audible.
Ce sont des parachutistes britanniques qui tirent sur la foule.
Qui tirent sur la foule, qui tuent 13 personnes, plusieurs sont abattus dans le dos, plusieurs sont mineurs, aucune de ces personnes n'était armée. Et donc là, le discours de l'IRA et du Sinn Féin, il faut poursuivre la lutte pour l'indépendance résonne chez de nombreux catholiques, surtout les jeunes catholiques nord-irlandais. Ils sont plusieurs à rejoindre les rangs de l'IRA et c'est le début d'un conflit durable qui ne se réglera que dans les années 1990, mais entre-temps, plus de 3600 personnes auront perdu la vie.
Écoutez donc cette interview de la femme d'un responsable de l'IRA, donc de l'armée républicaine irlandaise, dans un pub de Belfast sur les conditions de vie des prisonniers. Une émission de France Inter le 29 septembre 1979.
La chanson qu'on entend en ce moment s'appelle « Le drapeau des Fianna », c'est-à-dire les Fianna, c'est les jeunes de l'IRA. Et ils ont un drapeau spécial pour eux qui est bleu avec un espèce de gros de soleil orange. C'est une chanson en leur honneur. Il y a deux personnes qui fêtent leur sortie de prison aujourd'hui. C'est une fille qui sort de la prison d'Arma après deux ans de peine et un garçon qui sort de Long Cache après avoir fait 5 ans. La fille a été condamnée il y a 2 ans et pendant 2 ans, elle a refusé de porter l'uniforme. En 1976, le premier prisonnier qui a été incarcéré a décidé que, du fait qu'il se considérait comme un prisonnier politique, il n'allait pas accepter de porter l'uniforme pénitentiaire. Quand il est arrivé à la prison, les officiers de prison lui ont présenté un uniforme. Il était donc tout nu. Et lui ont dit voilà, ils lui ont mis une pile de vêtements gris sur la table et ils ont dit habille-toi. Et il a dit si vous voulez me le mettre, il faudra me le mettre avec des clous, l'enfoncer avec des clous dans le dos. Donc ils lui ont dit bon ben tant pis, tu resteras à poil. Donc il n'a pu faire qu'une chose, c'est enrouler la couverture autour de lui. Et c'est comme ça que ça a commencé. Maintenant ils sont à peu près 350 à refuser de porter l'uniforme. Ils sont donc 350 à n'avoir que leur couverture à se mettre.
La dame de fer, la première ministre, on disait le premier ministre encore à l'époque, Margaret Thatcher, est restée impitoyable lorsque Bobby Sands et quelques autres ont fait la grève de la faim et Bobby Sands, l'auteur de la chanson que vous avez entendue tout à l'heure, est mort en prison.
La dame de fer fut intransigeante, elle n'a rien cédé, mais ce fut sans doute une erreur, c'est-à-dire que en Irlande du Nord, bien évidemment, en République d'Irlande, en Grande-Bretagne, aux États-Unis, en France aussi, le sort de ces grévistes de la faim a beaucoup ému les opinions publiques. Bobby Sands, pendant qu'il était en grève de la faim, a été présenté comme candidat lors d'une élection partielle et a été élu au Parlement britannique. Donc l'idée qu'un député britannique pouvait mourir en prison d'une grève de la faim a beaucoup heurté les opinions publiques. Et en France en particulier, il y a eu des résonances très fortes.
Il y a beaucoup de rues qui s'appellent encore Bobby Sands, non ?
J'en ai recensé une vingtaine en France, dans des villes, en Bretagne, en région parisienne, mais dans d'autres villes également. Oui, le choc a été tout à fait considérable. Parce que demandait-il ? Pas grand-chose, finalement. Ils demandaient le droit de porter leurs propres vêtements, d'avoir un statut qui les différenciait des prisonniers de droit commun. Cela semblait assez raisonnable. Mais Margaret Thatcher n'a rien voulu céder.
Quelles ont été les forces, alors, Christophe Gillissen, qui ont progressivement conduit à la paix, à l'accord qu'on appelle celui du Vendredi Saint, 1998.
Alors, que s'est-il passé ? Du côté des républicains, l'IRA donc, les gens comme Bobby Sands, il y a eu cette compréhension que la lutte armée était dans une impasse. Ils pourraient continuer à se battre pendant des années, mais l'armée britannique resterait. Donc la réunification de l'Irlande ne passerait pas par les armes, mais par une solution politique. Il y a eu également des pressions très fortes de la part de Washington, puisque tous ces émigrants irlandais aux États-Unis restent attentifs à ce qu'il se passe en Irlande du Nord.
Bill Clinton était président des États-Unis d'Amérique à l'époque.
Absolument. Et dès le départ, pendant sa campagne présidentielle, il a manifesté son intention d'intervenir, d'agir en faveur d'un règlement politique en Irlande du Nord, et le gouvernement britannique ne pouvait pas y être insensible. Donc des pressions américaines, il y a également eu des pressions européennes pour mettre fin au seul conflit sur le territoire de l'Union européenne, avec des financements par exemple, des encouragements politiques. Et dans les années 1990, il y a eu une conjonction assez heureuse de ces différents facteurs qui ont ouvert la voie à un cessez-le-feu en 1994 et aux accords de paix en 1998.
On pense au poème de Yeats, le grand poète irlandais, qui disait « Peace comes dropping slow », la paix tombe lentement. J'emprunte cette citation à Pierre Johannon, qui est un des excellents historiens de l'Irlande.
On a souvent entendu cette citation dans les années 1990, c'est-à-dire que la paix ne s'est pas faite en un jour, il a fallu négocier, il a fallu être persévérant. Entre le cessez-le-feu de 1994 et l'accord de 1998, il y a eu 4 ans, mais tout n'était pas réglé pour autant. Il a fallu renégocier un nouvel accord, l'accord de St. Andrews en 2005, pour satisfaire le DUP, les unionistes nord-irlandais. C'est une œuvre qui n'est pas finie d'ailleurs.
Écoutons la satisfaction du Premier ministre Tony Blair sur Intersoir le 10 avril 1998.
Je voudrais aussi dire mon respect à toutes les victimes des deux communautés qui ont été tuées dans ce conflit qui a touché, cette tragédie qui a touché l'Irlande du Nord durant toutes ces années, les victimes civiles et aussi les victimes dans la police et dans les services de sécurité. Durant ces derniers jours, la force irrésistible de la volonté politique a fait que nous faisons table rase du passé et nous le changeons. L'idée qu'un côté a perdu en Irlande du Nord est balayée. L'essence de notre accord, c'est que nous gagnerons tous ou nous perdrons tous. C'est un accord qui sera bon pour tout le monde ou un échec pour tout le monde. Nous pouvons gagner. Cet accord, il entrera en pratique et bien sûr, je suis sûr que nous gagnerons.
Il y a un autre élément, me semble-t-il, Christophe Gillissen, qui explique comment on a pu en arriver à la paix. C'est le remarquable essor économique de l'Irlande à partir de la décennie 1990.
C'est une période de transformation assez remarquable, effectivement, qui s'est manifestée à cette époque. C'est-à-dire que la République d'Irlande était pendant très longtemps un pays, on pourrait presque dire sous-développé, un pays très pauvre qui ne donnait aucune envie aux protestants d'Irlande du Nord d'envisager une réunification. À partir des années 1990, il y a une transformation économique, un essor spectaculaire. On invente cette expression de tigre celtique, comme les tigres asiatiques, avec des taux de croissance de l'ordre de 10%. Et du coup...
Chômage tombe de 20% à 4%.
Disparaît quasiment. L'Irlande, terre d'émigration, devient pour la première fois une terre d'immigration. On y va pour chercher du travail. Et à la même période, il y a une transformation profonde de la société. Cette société qui, pendant longtemps, était très conservatrice, largement dominée par l'Église catholique, se transforme. Ça se manifeste notamment avec l'élection de Mary Robinson en 1990, une femme présidente de la République d'Irlande.
Nous avons entendu tout à l'heure en commençant cette émission.
Tout à fait. C'est un symbole assez extraordinaire qui va faciliter nombre de changements sociaux.
Et sociétaux, parce que l'homosexualité cesse d'être un crime, et tout récemment encore, ça a surpris un certain nombre de gens. Un référendum a prévu que l'IVG serait autorisé.
En 2018, tout à fait, tout comme le divorce avait été autorisé en 1995, on a une transformation radicale du pays. Et du coup, ça désamorce certaines méfiances des protestants nord-irlandais. L'État du Sud n'est plus cet État dominé par Rome, le Rome Rule. C'est une société moderne, pluraliste, où finalement, il n'y a plus de préjugés contre les protestants.
Dans le même temps, les échanges s'intensifient entre les deux Irlandes, de même que les échanges entre la République d'Irlande et l'Europe. Il y a un certain nombre de décennies, le commerce c'était essentiellement avec la Grande-Bretagne, alors qu'aujourd'hui il en va tout autrement. Et du point de vue qui nous occupe ce matin, c'est-à-dire la grande question de la frontière ou des frontières de l'Irlande du fait du Brexit, cela est de grande importance.
Absolument. Depuis les années 90, depuis le marché unique, depuis les accords de paix, les liens économiques et commerciaux entre l'Irlande du Nord et le Sud se sont développés. Et tous les jours, aujourd'hui, vous avez des centaines ou des milliers de camions qui traversent la frontière pour transporter des biens. Vous avez des entreprises transfrontalières avec des fournisseurs, des clients de part et d'autre. Il y a un tissu très dense qui se développe grâce à cette frontière invisible. Et c'est ce tissu-là qui est menacé aujourd'hui par le Brexit.
Quand la reine Elisabeth II, en avril 2014, a reçu pour la première fois le président de la République d'Irlande, qui avait succédé à Mary Robinson et à l'autre Mary, Mary McAleese, elle lui a dit qu'il fallait s'incliner devant le passé, mais ne pas en être prisonnier. Belle formule, mais peut-être difficile à appliquer à propos de la question des frontières.
Très belle formule. Dans les années 1990 et au début des années 2000, elle semblait pertinente parce qu'il semblait que l'Irlande avait réussi enfin à tourner la page d'un passé difficile avec tous ces conflits, avec ces tensions. On pouvait être assez optimiste et envisager un 20e siècle plus apaisé jusqu'au 23 juin 2016 et le référendum sur le Brexit qui, malheureusement, remet en cause tout ce qui a été construit depuis les années 1990.
Et vous voyez une manière de sortir de ce pataquès ?
J'ose espérer que le bon sens prévaudra. Il me semble qu'il y a deux solutions qui mériteraient d'être examinées attentivement à Londres.
À la lumière de l'histoire.
À la lumière de l'histoire. Pour éviter le retour au conflit, il faudrait envisager un Brexit soft, c'est-à-dire que le Royaume-Uni pourrait sortir de l'Union européenne, mais rester au sein du marché unique. Ça réglerait tous les problèmes liés, ou presque liés à cette frontière irlandaise. Et l'autre possibilité serait peut-être de redonner la parole aux électeurs du Royaume-Uni. N'oublions pas qu'en Irlande du Nord, 56% des électeurs ont voté pour rester au sein de l'Union européenne. Ça inclut de nombreux unionistes, de nombreux protestants qui ont conscience de l'importance de l'Europe pour la paix dans leur région.
Et qui par là même rejoignent le sentiment de la République d'Irlande, qui ne songe pas un instant à quitter l'Union européenne. Merci beaucoup, Christophe Gillissen.
Merci à vous.
Vous avez publié un livre sur ces questions, un livre important, aux presses universitaires de Caen en 2005, un livre qui s'intitulait « Une relation unique, les relations irlando-britanniques de 1921 à 2001 ». J'ai cité Pierre Johannon, excellent historien de l'Irlande. « Histoire de l'Irlande et des Irlandais », c'est une réédition mise à jour d'un livre plus ancien, paru chez Perrin en 2006. Il faut signaler aussi le numéro tout récent de la revue L'Histoire, janvier 2019, qui s'appelle « Les Irlandais, 200 ans de rébellion ». Je rappelle que vous pourrez trouver une bibliographie plus complète sur notre site avec les références des documents sonores que nous avons utilisés et que vous pourrez également écouter, réécouter et podcaster cette émission. Samedi prochain, nous partirons vers l'Asie. Nous parlerons de Taïwan, Formose, Taïwan toujours fragile. Et je recevrai pour en parler Victor Louzon. Lundi matin, vous retrouverez à 9h la fabrique de l'histoire d'Emmanuel Laurentin qui consacrera sa semaine au sujet suivant, les femmes artistes. Sur fond de Sunday Bloody Sunday, cette fameuse chanson du groupe de rock irlandais U2, enregistrée en 1982, qui est un hommage à ce qui est arrivé à Londonderry, très sanglant en 1972, sur fond de cette musique, je vous rappelle que vous venez d'entendre Concordance des temps de Jean-Noël Jeannet, une émission préparée par Jeanne Guéroux, réalisée par Yaël Mandelbaum, avec Jordan Fuentes à la prise de son, Nathalie Rouvilla à la discothèque et Véronique Jolivet pour les archives de l'Institut National de l'Audiovisuel. Et dans quelques instants, vous allez rejoindre Christine Ockrent pour Affaires étrangères.